Vous écoutez, on lit pour vous.
Bouger après 60 ans, d'accord, mais comment? Un texte de Catherine Handfield, paru le 8 septembre 2024 dans La Presse. Toutes les minutes comptent. Chers lecteurs, vous êtes nombreux à vouloir vous mettre en forme, comme en témoignent les questions que vous nous avez envoyées. La presse a mobilisé 5 experts pour y répondre et vous conseiller. Je fête mes 60 ans cette année. Est-ce réaliste de penser que je peux encore mettre en place de bonnes habitudes, même si je ne l'ai jamais fait auparavant? Si oui, par où commencer? Cette question est celle de notre lectrice, Linda Lacourcière de Laval, mais elle a quelque chose d'universel. Devant l'injonction de faire de l'activité physique, bien des gens se sentent un peu démunis, surtout en vieillissant. Est-ce réaliste de devenir actif à 60 ans? Les experts sont unanimes. Absolument! Quel que soit votre âge, vous allez changer la trajectoire de votre vieillissement, assure Mylène Aubertin-Leheudre, kinésiologue spécialisée en physiologie du vieillissement et professeure à l'UQAM. Elle voit des gens s'entraîner seulement 12 semaines et gagner 150 % de force musculaire. Et ils ont 75 ans, ajoute la professeure, qui souligne qu'être en forme, c'est aussi prolonger ses années de santé et d'autonomie. Par où commencer? Par le début. Ça peut être aussi simple qu'une marche de 10 minutes par jour, voire un jour sur deux. C'est ce que le docteur François Simard, cardiologue spécialisé en prévention cardiovasculaire, recommande à ses patients sédentaires. La beauté dans tout ça? Dès les premières minutes, on commence à avoir un impact sur notre pronostic cardiovasculaire, souligne le docteur Simard, qui travaille à l'Institut de cardiologie de Montréal. On peut ensuite augmenter le volume d'environ 10 % par semaine, dit-il. Mieux vaut augmenter d'abord la fréquence, donc le nombre de fois par semaine, puis la durée, et ensuite l'intensité, conseille Luc Nadeau, professeur au département d'éducation physique de l'Université Laval. Quand l'effort est répété, le corps cherche davantage à s'adapter, dit-il. Afin de garder une bonne condition physique, conserver ses muscles et une mobilité adéquate, quelles sont les recommandations? Question de Marie-Claude Pouliot. Que vous consultiez le site de l'Organisation mondiale de la santé, de l'American College of Sport Medicine, ou de la Société canadienne de l'exercice et de la physiologie, la recommandation est la même. Un minimum de 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée, lorsqu'on peut parler mais pas chanter, par semaine, ou 75 minutes d'activité intense, lorsqu'on ne peut pas dire plus que quelques mots sans prendre de pause, auxquels on ajoute deux activités de renforcement musculaire. Ces 150 minutes, c'est le seuil à partir duquel on observe une réduction substantielle des risques de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2, entre autres. Ce sont donc les minutes les plus payantes, indique le cardiologue François Simard. Mais même si on n'atteint pas l'objectif, toute l'activité physique demeure salutaire, insistent nos experts. Même celle de courte durée. Mylène Aubertin-Leheudre souligne que la nouvelle science nous dit ceci. Toutes les minutes comptent. Des études récentes suggèrent en effet que même de très courtes séances d'activité modérée à soutenue, même plus courtes que la recommandation traditionnelle d'au moins 10 minutes par séance pour atteindre un minimum quotidien de 30 minutes, peuvent avoir des bienfaits, tant cardiovasculaires que métaboliques, parce qu'elles s'accumulent au fil du temps. Monter et descendre les escaliers pendant 3 minutes, ça compte, résume Mylène Aubertin-Leheudre. De 19 à 25 %. Le fait d'atteindre le minimum d'activité physique modérée recommandée, de 150 à 299 minutes par semaine, est associé à une réduction de 19 à 25 % de la mortalité, selon une vaste étude. La plus grande diminution de la mortalité, 35 à 42 % a été observée chez les gens qui bougeaient encore plus, de 300 à 600 minutes d'activité modérée ou de 150 à 300 minutes d'activité soutenue par semaine. Vous écoutez? Bouger après 60 ans, d'accord, mais comment? Un texte de Catherine Handfield, paru le 8 septembre 2024 dans La Presse. Combien de kilomètres de vélo ou de marche équivalent à 1 kilomètre de jogging? Question d'Yvon Pellerin. La règle pour passer de la marche à la course est relativement simple pour la dépense énergétique. Ça va avec la distance, explique Christian Duval, professeur au département des sciences de l'activité physique de l'UQAM. Si vous marchez 5 km, vous allez dépenser pas mal la même énergie que si vous courez 5 km, résume-t-il. Pour le vélo, c'est plus variable, dit-il. Mais toujours en termes de dépenses énergétiques, le ratio est d'environ 3 pour 1. Donc, 5 km de course pour 15 km de vélo. Il existe une unité de mesure, l'équivalent métabolique ou MET, pour mesurer l'intensité d'une activité physique. Au repos, on dépense 1 MET. L'intensité est modérée entre 3 et 6 MET et intense à partir de 6 MET. Les valeurs varient d'une personne à l'autre, mais en voici quelques-unes en MET selon des moyennes statistiques. Intensité d'une activité physique en MET selon des moyennes statistiques. Vélo, 15 km/h, 6 MET. Vélo, de 22 à 26 km/h, 10 MET. Marche à 5 km/h, 3,5 MET. Marche à 6,5 km/h, 5 MET. Danse aérobique à faible impact, 4,8 MET. Course à 8 minutes par kilomètre, 6,5 MET. Course à 6 minutes par kilomètre, 10 MET. Yoga général, 2,3 MET. Les tâches ménagères, ça compte? Si on accumule des milliers de pas sur sa montre intelligente à la maison, c'est très bien, parce que ça limite la sédentarité. Mais les activités tranquilles ne peuvent remplacer les 150 minutes. Pour que l'activité physique soit bénéfique, il faut stresser le système, l'amener en dehors de sa zone de confort, explique le professeur Christian Duval. Ce sont des niveaux difficiles à atteindre en se déplaçant dans la maison, 2 MET, en cuisinant, 2 à 2,5 MET, en jardinant, 3 MET, ou même en passant la vadrouille, 3 à 3,5 MET. Quel sport quel âge? Question de Sonia Levasseur. Physiatre au CHUM et médecin du sport, le docteur Martin Lamontagne voit des patients de 65 ans très hypothéqués et d'autres qui, à 75, 80 ans, courent encore des marathons. Les sports n'ont pas d'âge. Bien que les jeunes soient généralement attirés par les sports plus intenses et les plus vieux par des sports plus modérés. En médecine, on est plus sur l'âge biologique, note le docteur Lamontagne. À ceux qui n'ont jamais fait de sport, le docteur Lamontagne conseille de prioriser les activités à faible impact, comme la marche ou la natation. Le vélo, les sports de glisse, le yoga et l'aviron, le rameur, entre autres, sont aussi considérés comme des exercices à faible impact. Et si on a mal? Quand on souffre de douleurs chroniques, il est tentant d'arrêter de faire de l'activité physique. C'est parfois même le conseil de certains omnipraticiens, constate le docteur Lamontagne, qui travaille à renverser ce discours. C'est le rôle des intervenants de la santé de mieux contrôler la douleur, dit-il, mais aussi d'expliquer aux patients qu'ils ont tout avantage à rester actifs. Prenons l'exemple de l'arthrose du genou ou de la hanche. La première recommandation dans les guides de pratique, c'est souvent l'exercice physique, dit-il. Les sports potentiellement pourvoyeurs d'arthrose sont ceux qui impliquent des changements de direction, accélération et décélération, comme le tennis et le soccer, indique le docteur Lamontagne. Le cartilage est moins bien adapté à ces forces de cisaillement, explique le physiatre, qui souligne que ces sports ne sont pas contre-indiqués, mais qu'il faut en doser la fréquence et l'intensité. Et la course à pied? Aucune étude n'a démontré que ça accélérait l'arthrose, dit-il, et aucune étude n'a démontré que ça la créait, sauf si on a déjà été blessé à l'articulation de façon significative. Qu'on souffre d'arthrose, de tendinopathie ou même de douleurs lombaires, le docteur Lamontagne est d'avis qu'on peut se permettre d'accepter un certain niveau de douleur, un inconfort, parce que les effets bénéfiques de l'activité physique dépassent largement les effets délétères. Ce n'est pas compliqué. C'est le meilleur médicament, conclut-il. Vous écoutez? Bouger après 60 ans, d'accord, mais comment? Un texte de Catherine Hanfield, paru le 8 septembre 2024 dans La Presse. D'autres conseils pour se remettre en forme. Ça y est, vous voulez vous remettre en forme. Voici des conseils à ne pas oublier pour faire de vos activités physiques des moments agréables. Misez sur le plaisir. Le critère le plus important en choisissant une activité physique, c'est le plaisir. Si c'est fait uniquement dans l'obligation, toute tentative de mise en forme risque de prendre fin rapidement, indique Luc Nadeau, professeur au département d'éducation physique de l'Université Laval. La marche aérobique vous ennuie pour mourir? Il y a mille autres possibilités. Danse, vélo, natation, badminton, yoga, patin. Pratiquer une diversité d'activités, c'est habituellement mieux pour la condition physique. Faire sa musculation. Les organisations recommandent de faire deux activités de renforcement musculaire par semaine, et celles-ci ne sont pas à négliger. Vieillir, c'est aussi perdre graduellement sa masse musculaire, encore plus à partir de la ménopause et de l'andropause, souligne Christian Duval, professeur à l'UQAM. Avoir une bonne masse musculaire est associée à des bienfaits de toutes sortes. Meilleure santé des os, diminution du risque de blessure, diminution de la douleur liée à l'arthrose, amélioration du pronostic du cancer. Simplifier la musculation. La musculation, ce n'est pas seulement les machines et Arnold Schwarzenegger, précise la kinésiologue Mylène Aubertin-Lehoeudre. Le premier poids dont on dispose, c'est celui de son corps. On peut commencer en se lançant des défis pendant les pauses publicitaires. S'asseoir et se lever le plus de fois possible. Tenir en position de squat ou en planche. Évidemment, si on en a les moyens, il vaut la peine de consulter un kinésiologue ou un physiothérapeute qui pourra proposer des exercices adaptés. S'informer. Les municipalités et les CLSC, entre autres, organisent différentes activités, comme des clubs de marche. Informez-vous, conseille Mylène Aubertin-Lehoeudre. Si vous optez pour la marche aérobique, mais craignez d'être fatigué en cours de route, pourquoi ne pas revenir en transport en commun? Ils sont même souvent gratuits pour les 65 ans et plus. Segmenter aux besoins. Une marche rapide de 30 minutes, c'est trop en ce moment? On peut très bien la segmenter. Vous pourriez faire deux marches de 15 minutes, le matin et l'après-midi, et vous obtiendrez les mêmes bénéfices cardiovasculaires. Résume le cardiologue François Simard. C'est une conception qui a changé. On se rend compte que, finalement, les minutes peuvent s'additionner. S'entourer et sortir. C'est plus facile et moins stressant d'entreprendre une activité physique lorsqu'on le fait avec une autre personne. Les bienfaits en termes de santé mentale s'en trouvent même augmentés. Le contact avec la nature comporte aussi plusieurs bienfaits, tant psychologiques, cognitifs que physiologiques. C'est donc mieux de marcher dans un parc que dans la rue, résume le Dr Simard. Revisiter sa mentalité. Il fut un temps où les métiers étaient plus physiques et où le corps était d'abord considéré comme un outil de travail, souligne Mylène Aubertin-Lehoeudre. Faire de l'activité physique, c'était considéré comme prendre le risque de se blesser et de ne plus pouvoir gagner sa vie. À la retraite, des gens ont gardé cette mentalité. J'entretiens ma maison et je fais mes activités, mais le reste, je n'en ai pas besoin, résume-t-elle. C'était Bouger après 60 ans, d'accord, mais comment? Un texte de Catherine Hanfield, paru le 8 septembre 2024 dans La Presse.
Comment devient-on un bon citoyen numérique? Un texte de Jean-Philippe Giroux, paru le 9 mai 2024 dans le Courrier de la Nouvelle-Écosse. Grâce à des présentations portant sur la cybersécurité, les élèves de la 7e à la 12e année du Conseil scolaire acadien provincial se sont familiarisés avec les dangers liés à l'utilisation d'Internet et des technologies numériques. Être un bon citoyen numérique est semblable à être un bon citoyen hors ligne. C'est naviguer dans les environnements numériques de manière responsable et sécuritaire et être soucieux de l'influence de ses gestes sur les autres. L'objectif est d'aligner les valeurs pour que les entités numériques et réelles se ressemblent. La citoyenneté numérique est un terme qu'on va commencer à entendre plus souvent parler. On n'a pas le choix de passer par là, avertit le consultant et conférencier Sam Côté. Ce dernier achève ses visites dans les écoles acadiennes de la province. Même s'ils utilisent les mêmes applications, la réalité des jeunes en région urbaine et rurale diffère, remarque-t-il, d'où l'avantage d'aller en tournée pour prendre le pouls de la situation. À titre d'exemple, en région, il y a des endroits où il y a de longs conflits non résolus. En étant dans une bulle francophone, dans un milieu anglophone, en étant isolé un petit peu, en vivant ce phénomène-là d'exclusion, on se ramasse avec des jeunes qui sont ensemble, qui se voient d'année en année dans les mêmes classes depuis longtemps, raconte M. Côté, et ça, ça amène à des différents types de conflits qui sont plus comme des conflits familiaux. Lors de sa présentation, il mentionne qu'autour de 80% des cas de cyberharcèlement qu'il a vus ont un lien avec des discussions de groupe, group chats. Dans de nombreux cas, l'élément déclencheur, tel que le partage d'images intimes ou du contenu inapproprié, est à l'origine d'un drame qui prend de l'ampleur et mène à la cyber-intimidation. Les group chats cultivent trop souvent cet environnement toxique. Il essaie de montrer aux jeunes que le comportement civique en ligne va au-delà de ce qu'on partage en clavardant. Il faut aussi justifier la raison pour laquelle on demeure dans un groupe de discussion lorsqu'on est témoin d'intimidation et la raison pour laquelle on s'y sent à l'aise. D'après M. Côté, il faut diviser l'apprentissage en trois phases selon les étapes de développement. À compter du moment où les élèves du primaire ont accès aux tablettes et aux autres technologies à l'école, l'accent devrait être mis sur les concepts de base de la citoyenneté numérique, dont la protection de la vie privée et des mots de passe. Plus tard, arrivé à la septième année, ce serait d'amener des concepts que les jeunes peuvent appliquer et intégrer rapidement. On tombe dans une phase de l'adolescence où on fait beaucoup d'erreurs en ligne, dit-il. Quand on se fait donner de la technologie à cet âge-là, on est particulièrement vulnérable et téméraire. Les enjeux sociaux plus avancés comme le trafic de la personne, la manipulation en ligne et la fraude propulsée par l'intelligence artificielle, qui peut maintenant imiter la voix de ses proches pour faire de l'hameçonnage, peuvent être abordés en plus grand détail à partir de la dixième année. Mais au-delà du cadre scolaire, la citoyenneté numérique doit être discutée à la maison, défend le conférencier, car si elle est introduite à l'école, on est déjà un pas en arrière. C'était « Comment devient-on un bon citoyen numérique ?» un texte de Jean-Philippe Giroux, paru le 9 mai 2024 dans le Courrier de la Nouvelle-Écosse.
Pour en finir avec Michelin de Michel-Maxime Legault. Un texte de Denis-Daniel Boulay, paru le 23 avril 2024 dans le magazine Fugue. Il est des textes qui happent alors que les premières lignes vous laissent, je le confesse, indifférent. Et puis la magie opère. La rencontre se fait étrangement et l'on va jusqu'au bout. C'est le cas avec le premier roman de Michel-Maxime Legault, Michelin. Avec des petits tableaux de souvenirs, des presque rien mais qui en disent long, se construit celui qui deviendra Michel-Maxime, faisant en même temps le sort au Michelin qu'il aurait pu être. On ne choisit pas son prénom. Certains, certaines d'ailleurs, en changent officiellement. Mais le comédien Michel-Maxime Legault a failli se prénommer Michelin si une de ses sœurs, plus âgée, sa sœur schizophrène qui avait toute sa tête, n'avait pas convaincu ses parents d'éviter de commettre cette erreur. Que serait devenu ce garçon s'il avait porté le nom d'une marque de pneumatique? La question du prénom est une amorce pour l'auteur afin de revisiter son enfance. Il a grandi dans une ferme avec ses 6 frères et sœurs. Rien ne le prédestinait à faire carrière sur scène, et encore moins à écrire. Au tournant de la quarantaine, confiné par la pandémie, Michel-Maxime Legault se livre à ce qu'il appelle, avec humour dans la voix, une introspection, comme il le confie en entrevue. « Quand j'écrivais à ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce que je ferais de ce texte. Je n'avais aucune intention précise, sinon de raconter une histoire, celle d'un petit garçon qui aurait pu porter un prénom ridicule. » Et puis, il y a eu une première lecture publique, une lecture d'un journal intime, en fait, raconte le comédien, qui a connu un certain succès, d'où l'idée de le publier. En fait, il est question d'un enfant qui naît dans un milieu rural et qui a un parcours qui s'avère différent. La lecture publique amène la publication du récit, mais cela ne s'arrête pas là puisque Michel-Maxime Legault a décidé de l'adapter pour la scène et depuis mars dernier, il est en tournée à travers le Québec. La mise en scène est signée Marie-Thérèse Fortin. Quitter sa région natale, la découverte de son attrait pour la scène et, bien sûr, son orientation sexuelle. La rencontre avec un monde à l'opposé de celui d'où il vient, avec la culture, pour échapper au petit Michelin qu'il n'aurait peut-être pas cessé d'être s'il était resté dans la ferme familiale. L'humour est au rendez-vous, ce qui évite le pathos pour parler des épreuves de l'enfance, des relations avec ses frères et ses sœurs. Par petites touches de souvenirs se dessine le portrait d'une famille dysfonctionnelle. Mais quelle famille ne l'est pas? Des relations qui nous ont aussi construites et qui nous poursuivent même lorsque l'on croit s'en être éloigné. Il n'y a pas en fait de rupture entre le milieu d'où l'on vient et celui dans lequel on se trouve aujourd'hui, simplement un continuum dont il est important de retrouver les passerelles. Un roman sur la réconciliation avec son passé et un chant d'amour pour les siens, les siennes, qui fait du bien. C'était « Pour en finir avec Michelin » de Michel-Maxime Legault, un texte de Denis-Daniel Boulay, paru le 23 avril 2024 dans le magazine Fugue.